Alors la question de Yaniv.
Est-ce que c'est possible d'arriver à un niveau où notre Avodat Hashem
en français, Avodat Hashem, notre service de Dieu.
Notre service de Dieu et notre étude dans la Torah et même les mitzvot qu'on fait tous les jours, d'arriver à les faire entièrement par amour pour Akadosh Baruch Hu.
Et pourquoi pas?
Parce que tout ce qu'on fait, c'est même si on a, comme l'a dit, un profit spirituel, ça veut dire qu'on a toujours un intérêt derrière, même un profit spirituel.
Quel intérêt?
Une fois, par exemple, si maintenant je fais une mitzvah et je dis c'est uniquement pour le ratson d'Akadosh Baruch Hu, même un tzaddik, il dit c'est pour le ratson d'Akadosh Baruch Hu, il y aura toujours une satisfaction derrière.
Ratson d'Akadosh Baruch Hu, je veux faire maintenant la volonté divine. Donc j'ai de la joie de faire la volonté de Dieu. C'est un acte d'amour. Bon, c'est un acte, c'est un très très haut niveau. Mais où est le problème? Donc, surtout les Balei Tshuva qui arrivent à l'Yeshiva ici, qui ne font pas, qui n'étudient pas la Torah pour avoir le titre de Rav ou le Talmid Chacham, ou pouvoir en placer une comme ça au cours devant tout le monde. Et pourquoi ils apprennent la Torah? Pour connaître quel est le message de Dieu. Et ils ont de la joie à étudier. Parce que c'est la sainteté, parce que c'est le mitzvah en soi. D'accord ? Quel intérêt ?
Ils attendent en retour une certaine simra, une certaine joie.
Ils attendent une joie,
ouais.
Par l'étude.
Ouais.
La joie d'étude. Ils aiment étudier, comme ils aiment manger de la glace, d'accord ? Ok. Bon, il n'y a aucun problème. Alors, il n'y a aucun problème. Donc, je demande ici qu'on m'amène le livre, un livre majeur sur les lois de Shabbat, Igletal, archi connu, du Hadmor de Sokhatchov. Et ici, dans son introduction, il dit, et en parlant, je me suis souvenu de ce que j'ai entendu de quelques personnes qui se trompent et qui disent, à propos de la Torah, que celui qui étudie en faisant des chidushim, donc il trouve de nouvelles choses dans la Torah, et il est heureux, et il a du plaisir dans son étude, c'est pas une étude de Torah qui est tellement lishma, qui est tellement désintéressée. Comme s'il étudiait alors, avec simplicité, sans avoir aucun plaisir à étudier, uniquement parce qu'il y a la mitzvah Hachem ordonnée. Mais celui qui étudie avec du plaisir, alors se mélange à son étude aussi du plaisir de lui-même. En fin de compte, lui aussi il kiffe, d'accord? Donc c'est pas vraiment désintéressé. Je suis bien intéressé, le problème est que j'en kiffe. Et bien, Emmet est vraiment, c'est à vous que me fourcez, mais c'est une erreur connue. Et à plus forte raison. C'est ça l'essentiel de la mitzvah de la Torah, d'être heureux, avoir du plaisir dans son étude. Car à ce moment-là, la Torah est absorbée dans son sang. Et après, par le fait qu'il a du plaisir dès l'étude de la Torah, il s'unit à la Torah, il se colle à la Torah. Et ici, d'ici un Rashi dans Sanhedrin Nunchet, Dibura Matril Vedavak, Zohar Kadosh, c'est le Zohar, etc., etc., etc. Donc, le but, c'est une histoire d'amour. Et il est clair que, comme un homme s'unit avec sa femme, c'est une mitzvah, mais il ressent rien. C'est pas aussi fort que s'il sent une joie à s'unir à sa femme. C'est vrai qu'on peut avoir, dans cette union avec la femme, on peut penser à soi-même. Mais si on pense à l'autre, on a de la joie de la pensée à l'autre. C'est un vrai acte d'amour. Quelqu'un va prendre un exemple plus simple, parce qu'il n'y a pas, au niveau avec les femmes, ça peut, il y a beaucoup de brouillage de compréhension. Quelqu'un qui, voilà, une petite fille qui achète à sa maman un cadeau pour la fête des mères, pour l'anniversaire de sa mère. Elle est très heureuse. Elle le donne avec amour à sa maman. Elle écrit une lettre, elle fait un beau dessin pour sa maman. D'accord? Elle est heureuse de le faire, elle est heureuse de le faire. Elle ne pense pas au Sakhar, elle ne pense pas qu'elle va faire pour que sa maman demain lui achète une glace ou quelque chose. Elle l'a fait par amour. Elle est heureuse de le faire, elle est heureuse de le faire. Attends, imagine qu'elle le fasse, parce qu'il y a une mitzvah de rendre heureuse sa maman, mais elle le fait sans être, elle-même ressentir quelque chose. C'est beaucoup moins bon. C'est évident. Donc c'est ça le vrai amour.
Oui, mais le fait de rendre heureuse sa maman, c'est un intérêt, parce que tout son but à elle, ce cadeau-là, c'est pour rendre heureux sa mère.
Oui.
Donc, il y a même un petit grain de sable d'intérêt derrière. C'est un peu intéressé. Pourquoi? Parce que son but principal, c'est de rendre heureux sa mère.
Heureux sa mère. Dans notre exemple maintenant, c'est rendre heureux Hachem.
Ouais.
C'est bien.
C'est un intérêt.
Quel intérêt? C'est ça le but. Ça, t'as pas de l'Hachem qui soit plus grand que ça.
Oui, mais je le fais pour quelque chose.
Comment on dit l'Hachem? Attends. Il faut toujours que tu aies une motivation pour faire quelque chose. Tu ne peux pas le faire sans motivation. Quelle est la motivation de la mitzvah la meilleure que tu puisses avoir? Comme on dit dans l'Hashem Yichud, on dit l'Hashem Yichud. C'est bien avant chaque mitzvah de dire l'Hashem Yichud Kutcha Berichu Veshrinte. Pour unir Kutcha Berichu, j'aime pas ce nom en français, Saint béni soit-il, d'accord? Bon. Veshrinte et Sashrina, l'Arda Hashem Mukhe Bevavake, d'unir les noms, les lettres Yud et puis Hei du nom de Dieu avec les lettres Vav et puis Hei du nom de Dieu, Birchud Hashem en union totale. Pour faire du plaisir à notre Créateur et la faire sa volonté. On parle de plaisir du Créateur. Moi je le fais maintenant et ça me fait plaisir de faire plaisir au Créateur. C'est une vraie histoire d'amour. Hein. Les gens qui comprennent, qui sont pas au niveau d'amour de Dieu, ils comprennent pas ce qu'on va faire plaisir à Hachem. Quelqu'un qui a vraiment en relation d'amour avec Hachem, il peut comprendre qu'en zone mitzvah maintenant, il fait du bien dans le monde et quelque part, ça plaît à Hachem et il est heureux de plaire à Hachem. Pas parce qu'Hachem lui enverra demain un flux d'abondance, de santé, de réussite et de machin, ni pour Olam Haba. Histoire d'amour. C'est le top qu'il puisse y avoir. Il est heureux? Oui, il est heureux. Heureusement qu'il est heureux. C'est très bien.
Quand on a envie de faire plaisir, par exemple, plaisir à sa femme ou à sa mère,
oui.
On a une envie humaine qui nous monte à l'esprit. Si maintenant je ne suis pas mon envie, c'est moi qui peux être frustré. Donc je suis content, en effet, de lui faire plaisir.
Excellent.
Mais de ne pas lui faire plaisir, ça fait attention.
Excellent.
Finalement, quand j'ai fait cet acte de bonté, finalement, c'est moi-même que j'ai.
Je répète la question pour que ce soit clair à tout le monde. Tu dis, quand j'ai envie, ça me fait plaisir de faire plaisir à ma mère, d'accord. Si je ne fais pas, je me sens frustré. Il n'y a pas d'acte d'amour plus grand, de preuve d'amour plus grande à Hachem que tu peux maintenant faire des mitzvot, tu peux faire de la Torah, tu ne fais pas. Tu es frustré parce que quelqu'un t'a contraint de ne pas étudier. D'accord ? Regarde les grands, les gdolim. Chaque seconde de Torah, qu'est-ce que c'est ? Chaque seconde de Torah, qu'est-ce que c'est ? C'est inimaginable. Ram, on va dire une fois, sa femme, Zichron Alivracha, elle avait appelé pour venir manger, il vient, c'était pas encore prêt, il fallait attendre 2 minutes. Il dit, pourquoi tu me déranges ? 2 minutes. On partait étudier. D'accord ? C'est chaque seconde, millimètre, tu les vois, c'est... Pourquoi ? Ils sont tellement frustrés de ne pas être en situation de relation d'amour tellement grande avec Hachem, c'est tellement kiffant, c'est vraiment kiffant. À part l'obligation de toujours, mais il y a l'obligation, mais au bout d'un moment, tu rentres dans un kiff, d'accord ? Il n'y a pas plus kiffant. Et quand on rentre, ceux qui, dans leur étude, arrivent à s'investir, à ne pas perdre de temps, au bout d'un moment, ils sont tellement en kiff, ils se rendent compte de la qualité de vie qu'ils ont, le plaisir qu'ils ont par rapport... à la non-étude, c'est triste pour eux de laisser une seconde hors étude, hors mitzvah. D'accord ? C'est très dur pour eux. Et nous, on est petits, imaginez chez les grands. Donc, effectivement, on se sent frustré. C'est pas une preuve que notre étude est intéressée. Au contraire, c'est une preuve que nous sommes très amoureux.
Mais il y a un danger, c'est aussi notre moteur. Et justement, cette envie d'assouvir à cette frustration, bon, c'est un problème.
Non.
Le moteur doit être justement juste le temps.
Non, de non, non, c'est pas le moteur. C'est pas le moteur. Le moteur est une histoire d'amour. Tu aimes Hachem, tu veux connaître sa Torah. Il est vrai que ça t'amène aussi du plaisir en retour. Mais le moteur, c'est une histoire d'amour. Imagine que tu es en train de parler avec ta femme et tu lui parles maintenant de. C'est très beau. C'est vraiment le trémolo, profond, beau. Puis le téléphone qui sonne. D'accord ? Alors, tu es frustré. Tu veux reprendre avec elle. Pourquoi ? Pour le kiff que tu as ou vraiment parce que tu l'aimes ? Ben, la vraie raison, c'est parce que tu l'aimes. C'est vrai que ça t'octroie aussi un kiff.
Mais si c'est que pour le kiff, c'est toujours mieux de le faire que de l'inter.
Oui, certain que c'est mieux. On parle maintenant, la question a été posée, est-ce que nous pouvons nous arriver à faire les mitzvot, la Torah de façon désintéressée ? C'est une question de Yaniv qui parle d'un très, 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 avec plusieurs puissances, haut niveau. D'accord ? Au début, on ne le fait pas pour ça. Au début, on le fait ou pour parler en enfer, ou pour aller au paradis, ou il y en a qui font par amour de la vérité, ou parce qu'ils ont compris qu'à côté, c'était idiot, ils préfèrent dans la vérité que dans le mensonge. La relation d'amour avec Hachem, c'est une chose qui s'acquiert avec un peu de temps quand même. Ce n'est pas si facile, d'accord ? Oui, Avraham.
Il y a des mitzvot où on fait vraiment, parce qu'on a envie, par exemple, il y a des gens qui font du chesed, des âges de chesed, c'est pas pour parce qu'ils ont un intérêt, c'est vraiment, ils le font parce qu'ils aiment faire du chesed, ils aiment rendre service aux gens.
Ouais.
Donc ça, c'est-à-dire, je le fais pour qui ? Je le fais pas pour...
Est-ce qu'ils aiment rendre service à leur femme au même titre ? Parce qu'ils aiment.
Là, malheureusement, ils préfèrent. Ils arrivent plus à rendre service aux étrangers que à leur...
qu'à leurs femmes. Alors, ça prouve que c'est tordu. D'accord. C'est bien plus gratifiant. C'est bien plus gratifiant d'aller aider la veuve et l'orphelin hein, que d'aider sa femme. D'accord. Alors là, c'est pas un vrai Lechem Shamayim. Quand tu fais du chesed, ou quand tu as un beau chidouche en Torah, ou tu as écrit un beau chidouche en Torah, ou tu as donné un bon cours en Torah, alors il y a une partie ici de l'image que tu as de toi-même. Tu es quelqu'un. Tu as aidé maintenant la veuve et l'orphelin, tu as trouvé un chidouche, chidouchik, super grand, tu as trouvé une solution, une kouchia, que beaucoup de se posent de questions. T'as écrit, t'as fait un cours, tout le monde est sorti baba, d'accord. Ok, alors, bien que t'es tout en là-bas, tu cherches pas maintenant, t'as fait le chesed de façon tout à fait anonyme, d'accord. Le chidouche, tu l'écris, t'écris un pseudonyme. Mais non, moi, hein, je suis quelqu'un, j'ai fait quelque chose. Là, je suis quelqu'un, c'est pas le Shem Shamayim. Là, on te parle d'une histoire d'amour, c'est tout à fait autre chose, d'accord. Une histoire d'amour, c'est que tu es amoureux et tu le fais, voilà. Ça te dérange même quelque part qu'il puisse y avoir une gratification personnelle. Encore une fois, je parle de très très haut niveau qui, à l'éval, nous concerne une fois tous les 36 du mois. Oui.
Je dis avant qu'un des exemples de.
Regarde, ta question elle est comme ça. Tu dis, si tu as maintenant étudié pour aller au paradis, effectivement, c'est bien, c'est un bon niveau. C'est beaucoup mieux que d'étudier pour les honneurs, pour l'argent, pour le titre. Mais ce n'est pas encore le vrai acte d'amour désintéressé. C'est juste. Je pose la question, alors pourquoi est-ce qu'on voit qu'on nous parle, par exemple, quand on fait un Sioum Maseret, quand on fait un traité du Talmud, alors on dit, on remercie Hachem qui nous a mis au Yoshev Bet HaMidrash, qui nous a fait parmi les personnes qui sont présentes, qui sont assises au Bet HaMidrash, dans la maison d'études, et pas ceux qui sont à l'extérieur, que eux courent et nous on court, et eux courent, ils arrivent à n'importe quoi, et nous on court vers Olam Haba. Et nous on reçoit un sahar, on reçoit une récompense, et eux pas. Ils jouent à la bourse, ils auront de l'argent, mais Olam Haba ils n'auront plus rien, et nous on joue à Hachem, et ben, à la Torah, et à Hachem on aura le jackpot dans Olam Haba. Tu me dis, le but c'est pas Olam Haba, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, vu que le niveau de faire les choses, les Shem Shamayim, complètement par amour d'Hachem, c'est un très très haut niveau, il est impossible qu'on en parle trop, parce que tu découragerais tout le monde. Donc on est obligé de niveler par le bas et de parler de Olam Haba, et parler de l'enfer, et de parler de tu comprends, ces choses-là qui nous motivent beaucoup plus, quelque part, dans notre petite qualité humaine.
Mais si on le dit ce texte ou pas, alors ceux qui sont arrivés...
Oui, bien sûr, on le dit, il n'y a rien de mal. Regarde, la vérité, c'est qu'on est... Même quelqu'un qui est très Lechem Shamayim, il a besoin aussi du Lo Lishma. Il torche Lo Lishma, Ba Lishma. Je racontais souvent cette histoire du stapler que le Rav Chazan nous a raconté, que le père de Rav Chazan est allé voir le stapler, il lui a dit tu me soupçonnes pas d'être un menteur. Chassé shalom, kvod harav. Tu me soupçonnes pas d'être un menteur. Chassé shalom. Allez, je te promets que chaque jour quand je m'assieds pour étudier, entre un quart d'heure et 40 minutes, j'ai des souffrances terribles. Parce qu'on est mieux au lit. On est mieux en train de boire un café, d'accord. L'étude, c'est dur. Alors, une fois que tu rentres dans la sugia, et ça devient intéressant, et tu commences à kiffer, c'est fantastique. Mais pour s'y mettre, il y a besoin d'efforts. Quelqu'un, il aime bien prier bien. Mais se lever le matin, quand il fait froid dehors, il fait bon chaud sous la couette, il aime bien aller prier bien. Il regrette après s'il est resté sous la couette. Mais dans le moment même, c'est très difficile. Donc on a besoin, des fois, du starter, qui est l'eau du chemin, qui n'est pas par amour désintéressé. Donc on a besoin aussi d'un peu de l'âme à bas et de l'enfer. Ça aide. Oui, Raphaël.
Si on fait une condition préalable avec la Kadosh Baruch Hu en disant voilà, je vais faire cette mise-là, je vais étudier aujourd'hui et je ne veux pas le salaire de cette étude et cette mise-là.
Ouais.
Parce que c'est ça, les Shem Shamayim.
C'est un super grand Shem Shamayim. On raconte sur le Gaon de Vilna qu'il voulait un étrog. À l'époque, à Vilna, c'est donc en Lituanie, trouver un étrog, c'était presque impossible. Et on a entendu que dans une ville voisine, il y avait un grand riche qui avait obtenu un étrog. Alors, une délégation du Gaon de Vilna qui est venue et demandait qu'il était, on est prêt à payer n'importe quel prix que tu veux. Il dit, réfléchis, je suis d'accord. Mais mon prix, il faut voir si le Gaon est d'accord. Je veux que ce soit bien le Gaon qui fasse sa mitzvah, mais je veux que moi, je le sache de sa mitzvah et pas lui. Ils n'ont pas osé aller le voir, le rentrer chez le Gaon. À la fin, ils disent, voilà, on a trouvé un étrog, mais un truc impossible. Le Gaon dit, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Et on raconte que cette année, il a fait, on l'a vu faire le Lulav avec beaucoup plus de ferveur que les autres années. Parce que c'est vraiment un Shem Shamayim. Bon.
On peut faire un
tenaille
juste avant de
décider. Ouais. Il y avait un grand aussi, comment il s'appelait le Rav, un grand tzaddik de notre génération qui est décédé il y a 3-4 ans, Ariel Zilber, j'ai oublié son prénom. C'était un juif qui a beaucoup souffert dans les goulags. Il était en Russie, il faisait la Torah contre l'Empire russe, il se battait. D'accord. Et il y a un livre entier qui est écrit sur lui maintenant, c'est un super gros tzaddik. Très très humble, pas assez inconnu comme ça. Et un jour, il avait rencontré, il y avait une russe qui était venue de Russie, et en fait, elle était mariée. Elle se remariait, mais son mari en Russie, il refusait de donner le guet. Elle est partie en Russie pour le convaincre. Et le mari ne voulait pas. La femme mari dit, je suis d'accord, tu sais quoi, tu me donnes ton olam haba, je signe le guet tout de suite. Au Rav Zilber. Il dit, aucun problème. Ils ont fait un contrat, ils donnaient son olam haba pour obtenir le guet du mari. Ça fait des années que je pose la question, comment ça se traduit là-haut? Est-ce que vraiment il arrive là-haut, il n'y a plus de olam haba? L'odeur. En tout cas, tu vois que les gens étaient prêts à faire des grands actes de dévouement total de leur personne.
En plus, c'est même pas pour Kadol Borou, c'est pour des gens.
Pour des gens, bon, c'est un grand chesed. Tu permets à une femme de se remarier. C'est un grand niveau.
Ça peut marcher, ça, de donner le rabbin?
Une fois, j'ai entendu d'un rabbin que non. Donc, il a bien eu le russe. Mais si jamais un autre rabbin dit que oui, Marloket, d'accord, faut voir. L'odeur. Oui.
On dit comme quoi c'est une motivation pour une personne de dire comme quoi tu auras la maba et tout ça. Parce qu'au final, le la maba, il n'y a rien de tout ce qu'on a ici comme kiff. C'est que la Torah comme kiff.
Non, mais il y a un kiff, la maba.
C'est la Torah. Alors qu'on ici maintenant, qui veut
la maba, on va
en sortir avec la Torah. Donc pourquoi maintenant ça motive la personne? Si c'est vraiment c'est quoi le la maba et qu'elle n'aime pas la Torah dans ce monde, pourquoi elle va kiffer dans le monde après?
Donc question, si quelqu'un il n'aime pas la Torah dans ce Olam Hazeh, en quoi maintenant ça le motiverait? On lui dit, étudie la Torah, t'es au paradis, alors qu'au paradis, le mérite, c'est étudier la Torah aussi. Alors lui, il n'aime pas ça, c'est comme quelqu'un n'aime pas les petits pois, on dit, mange, qu'est-ce que tu auras une récompense? Quoi, tu auras un gros paquet de petits pois, d'accord? C'est pas motivant. La réponse, elle est comme ça. Elle est que ici, on est dans le monde du mensonge. Alors, la Torah ne l'intéresse pas parce que lui, il est très ancré dans le mensonge. Il est intéressé par les filles, intéressé par l'argent, intéressé par les honneurs, intéressé par Olam Hazeh, le monde d'ici. Mais c'est un mensonge, c'est de la poudre aux yeux, parce que le monde d'ici, il passe comme ça. Après, c'est un monde qui est d'éternité, où il n'y a plus qu'une seule chose, qui est la réalité d'Hachem. Et c'est ça notre vraie réalité. Il est impossible dans Olam Haba de ne pas kiffer la Torah. Impossible parce que c'est notre vraie réalité. Si quelqu'un ici est dans Olam Hazeh et ne kiffe pas la Torah, c'est parce qu'il est aveuglé, c'est tout. Il est malade, c'est comme un type malade, et on lui donne quelque chose de bon à manger, il trouve ça amer, et il aime bien manger des choses qui sont mauvaises.
Même s'il ne s'est pas battu, ça manquait comme quoi. Le jour de sa mort, il y a une photo de ce qu'il est, c'est ce qu'il va être pour l'éternité, c'est tout.
Non.
Si il ne s'est pas battu maintenant pour aimer la Torah, tu n'aimeras jamais la Torah.
Non, c'est faux.
C'est un rachat quand
il
vient.
Non, il faut comprendre. Non, alors ta question, vu que le type maintenant, quand il meurt, sa situation telle qu'elle est, c'est ça qui reste pour l'éternité, vu que lui n'aime pas la Torah, il reste dans cette situation. C'est faux, parce que le mal est fini. Le bien est infini. Donc si quelqu'un fait beaucoup de mal, il devra, après sa mort, réparer le mal qu'il a fait au moyen de toutes sortes de programmes purgatoires, mais à la fin, il est propre de tout le mal qu'il a fait. Il reste que le bien. Et là, il verra la valeur de la Torah. Parce qu'en fin de compte, sa neshama, elle est pure. Elle était tachée par beaucoup de saleté. Alors, on enlève les saletés, on nettoie tout ça, ça fait un peu mal. Au bout d'un moment, il reste le diamant. Et quand il est diamant, et c'est ce qui reste pour l'éternité, il verra que la seule chose qui valait la peine d'être vécue dans ce monde, c'est la proximité d'Hachem, qui se fait beaucoup par l'étude de Torah.
Au final, tout
le monde va gagner au final. Mais le final, après quoi? Olamaba, Gan Eden. On va au Gan. Olamaba, il y a deux définitions de Olamaba. Il y a un qui c'est très amétime, résurrection des morts, et un que c'est le Gan Eden, que c'est le paradis, donc la chambre d'attente où se trouvent les morts. Peu importe, d'accord, dans le monde futur, tout le monde y a droit, pour finir. Même ceux à propos desquels il est marqué qu'ils n'ont pas droit au monde futur, il y a des super gros réchaïms, à la fin ils ont droit. Mais, oulalalalalalala, faut pas la peine de tenter le coup par le mauvais. Oui.
c'est aussi motivant de, quand on parle de Guilmain et de Ganden. Pourquoi il n'y a pas des échantillons pour nous prouver que c'est vraiment incroyable là-bas? Et là, on aurait une motivation.
Il y a des échantillons, il y a des gens qui vont et qui reviennent, qui te racontent.
Qui nous dit que c'est vrai ce qu'ils disent? Il n'y a que eux qui.
Ah, ils sont pas intéressants. Tu vois, c'est un type, des types qui étaient non religieux, qui ont un accident de voiture, il est reparti, il est revenu, il dit comment ça s'est passé. T'as un autre, même chose, et il revient comme ça s'est passé. J'en ai trois comme ça.
Mais d'accord, mais quand on n'a pas vu, quand une personne n'a pas fait ses propres yeux,
elle peut... Écoute, si tu voyais, t'aurais plus de mérite. Tout le mérite, il est que tu es dans l'obscurité, on te montre maintenant une pub d'une bonne femme en train de sourire. En fait, c'est Dracula déguisé, d'accord. Et on te montre ici une Gemara, d'accord. En fait, c'est le kiff des kiffs, d'accord. Donc, tu regardes la Gemara, tu vois la bonne femme, il n'y a pas photo, d'accord. On te dit, non, mais c'est tout faux. Et on te le prouve par A plus B. Ok, j'ai compris, mais quand même, tu as vu sa tête. C'est en cela qu'il y a le challenge, c'est en ça maintenant. Si de coup, on te montre, non, c'est un Dracula. Ah, bon, ben fini. Il n'y a plus raison d'être à ce monde.
Non, on ne montre pas son Dracula, on montre que là-bas, c'est un kiff.
Viens goûter. Tamur ou Kitovachem, reste un peu ici à l'Eshiva. Enlève un peu les carapaces du mal, un peu, tu vas goûter, c'est bon. Il y a peu de personnes qui sont restées ici un an et qui ont dit après c'est pas bon. C'est très très. C'est bon, Hachem c'est bon, mais il faut s'habituer au bon goût. Mais regarde, ici en Israël, ils ne savent pas c'est quoi les bons vins. Très peu de gens. Puis maintenant, ça commence à rentrer un peu dans le marché. Mais il y a des gens, tu donnes boire du vin, un vin qui vaut 1000 euros la bouteille, 15 000 euros. Tu ne peux pas boire, c'est dégueulasse. Alors qui est tordu, eux ou nous? Ben c'est eux, parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas. Mais si on va les éduquer lentement à voir le bon goût qu'il y a, ils vont kiffer aussi, parce que tout le monde est d'accord qu'un bon vin, c'est un bon vin. Donc il y a une question d'éducation. Quand quelqu'un il est branché à la matière, on n'est pas maintenant de plaisir spirituel. Au début, ça ne rentre pas. Lentement, il s'affine, il s'affine, il s'affine. Le plaisir spirituel, il rentre. C'est kiffant. C'est kiffant. Mais ça demande une éducation. Une éducation à refaire, parce qu'aujourd'hui, le monde... tel qu'il est, il te dit que kiff olamazé, il n'y a que ça, toute journée, que ça. Il faut une très grande profondeur d'âme pour un beau jour dire j'ai pas envie et quelque chose d'autre m'intéresse. Il y a, c'est les gens qui sont ici d'habitude, ils ont goûté olamazé, ils ont vu que c'est ok, mais après, il faut quelque chose de plus. Il y a un besoin, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette profondeur d'âme, beaucoup se contentent tout à fait du olamazé. Donc il faut vraiment s'éduquer à goûter au goût spirituel pour voir que c'est certain que c'est bien meilleur. Oui.
Dans le sol de la vérité, je vous explique comme quoi le Béni Israël a dit, ouais, tu dois redescendre pour faire le chouva. Vous venez de dire comme quoi une personne qui a goûté en haut, elle n'a aucun sahar en bas quand elle est reduite.
Il a moins. Plus une personne reçoit des messages d'en haut, on lui fait un rêve. J'avais ici un élève, je racontais cette histoire-là, il y a quelque temps, je vais le répéter ici sur Internet. J'avais un élève qui était en voie de conversion. À l'époque, on recevait ici les personnes en voie de conversion, maintenant, on ne reçoit plus. Il était en voie de conversion, son père était juif, sa mère était non-juive. Et il me raconte, trois semaines après que ça s'est passé, il me raconte comme ça, qu'une nuit de Shabbat, il y a là, tout à coup, il voit son grand-père, qui est décédé. Et le voit lumineux, rayonnant, dans un... Il ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais c'est blanc rayonnant, d'accord. Il le voit en train de sourire, lui parler comme ça, avec amour, c'est beau, c'est... Il n'entend rien. Il met les volumes, ouais, ça ne marche pas. Il se réveille, choqué, à la nuit de Shabbat. Il m'a dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Tov, samedi soir, il va dormir, rebelote. De nouveau, il voit même séquence. Son père, son grand-père, heureux, lui parle avec amour, rayonnant, blanc, brillant. Toc, 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 dans la télévision, pas de volume. Là, il se réveille, il se met à pleurer toute la nuit. Choqué. Dimanche soir, il va dormir. De nouveau, le grand-père, rayonnant, blanc à la barbe, lui parle. Et là, il y a le volume. Il dit, mon fils, mon petit-fils, je suis très heureux d'où tu te trouves. Continue dans ta voie. Essaye d'influencer ton père que lui aussi il fasse tchouva. C'est-à-dire, de là, ma balle, le grand-père est venu chez un non-juif. Il a dû passer des cieux et des cieux et des cieux pour venir... Pour lui dire, c'est bien, je suis content de toi. Ok. Alors, il a reçu un signe de là-haut. Maintenant, c'est mieux quelqu'un qui n'a reçu rien, n'a rien reçu comme signe, ou un qui a reçu un signe. C'est clair que celui qui n'a rien reçu, il est beaucoup plus méritant. parce qu'il se dit toujours oui peut-être, et malgré tout il y va. Donc il a une bagarre beaucoup plus grande avec lui-même. Des fois on aide les gens du ciel avec des signes, mais c'est pas comme ça. Ça me rappelle le hein?
Lui il est pas resté en plus.
Ah ouais, il a mal tourné. C'est pour toi qu'il a besoin d'une aide du ciel. Je racontais pour Salomon, qui est un descendant de Rabbi Yonatan Eibschitz, l'histoire de Rabbi Yonatan Eibschitz. Yonatan Eibschitz, c'est un des grands de la génération. Il y a deux siècles, environ 250 ans, d'accord, en Pologne, en Allemagne, je sais pas, en tout cas en Europe centrale. Et il avait un fils très calé, comme son père. Et pour les vacances, il avait 18 ans, il voulait, papa, laisse-moi, je vais aller 2 mois en Angleterre, voir l'Angleterre. Bon, le père, erreur colossale, autorise son père à son fils à partir en vacances en Angleterre, pas dans un camp religieux, tout seul. Bon, et là-bas, il apprend rapidement l'anglais et il commence, comme tout le bon juif, à faire du business. Il achète une pomme de 2 cents, il la revend, il la frotte, il la remplit, il a moins 4 cents. Après, il achète avec 2 pommes, d'accord, il a 4 pommes, 8 pommes, etc. Au bout de quelques semaines, il y a déjà un beau petit magot de livres sterling. Il envoie une lettre à son père. Est-ce que tu me laisses encore quelques mois? Là, j'ai fait, c'est très bien pour moi. Enfin, je réussis bien. Et il commence. Et il devient en quelques mois super riche. Et il reste là-bas. 2-3 ans, il devient un lord. Lord Wolf, il s'appelait. Histoire authentique. Lord Wolf. Par Eibschitz, évidemment. Il a changé son nom. Lord Wolf. Évidemment, avec l'argent et la réussite, il commence à déraillé, il commence à rencontrer les Anglaises, etc. Une nuit de Kippour, le type est complètement à côté de la plaque, ni Kippour, ni Kippa, ni Tfilin, ni rien. Son père est déjà décédé. Et tout coup, il voit son père en rêve. Il dit, t'as pas honte, tu sais que honte tu me fais maintenant dans le ciel, comme tu te comportes, c'est Kippour aujourd'hui. Tu fous rien, t'as mangé déjà, t'as bu. Ou tu fais tchouva, ou je te tue. Il se réveille comme ça, complètement retourné. Quel cauchemar. Allez, vite, un thé anglais. C'est un thé. Quel cauchemar idiot. Bon, il va redormir. Il revoit son père. Cauchemar idiot. Je te garantis que c'est pas de la blague. Ou tu fais tchouva immédiatement ou je vais te tuer. De nouveau, il se réveille complètement rataté. C'est terrible cette histoire-là. Bon, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai peur de refaire des cauchemars. Ce truc-là. Bon, il tourne en rond. Enfin, il dit, bon, je suis fatigué. Allez, cauchemar, c'est fini. 2 fois, il n'y aura pas 3. Il va dormir. Je vois que tu ne comprends pas. Hein. Il attrape. Le père attrape son fils par la gorge. Mal étranglé comme ça. Le fils se réveille hors du lit et il sent sa gorge toute. Hein. Vraiment, il est étouffé. Il sent que ça fait encore mal. Là, il s'est dit, c'est pas normal. Il est à la synagogue. Il a pleuré tout. Il pourrait faire une tchouva totale. Mais il faut le mérite d'être le fils de Rabbi Yonatan Eibschitz, qui a le mérite pareil. Que du ciel on vient, on t'étrangle pour ta tchouva. Nous, on n'a pas ça. Maintenant, il est méritant, ce fils. C'est un crétin des îles. Il a fallu que son père vienne 3 fois l'étrangler pour qu'il se réveille. Nous, qu'on n'a pas des grands-pères comme ça, et qu'on fait tchouva tout seul, ou dans la difficulté, ou dans le doute, c'est certain, c'est beaucoup plus grand.
Mais après, ce qui suit.
Qu'est-ce qui suit?
Après, s'il fait
tchouva,
il y a son éternel qui arrive.
Je ne dis pas qu'il n'a aucun mérite. Il a son mérite. Il a son mérite. Mais moi.
À ce propos, pour quelqu'un qui a, sans forcément voir, sans avoir ce mérite-là, mais pour quelqu'un qui a la chorma, de pouvoir démontrer l'existence de Dieu, finalement, ça revient un petit peu au même que s'il avait eu un signe.
Non.
Non, mais quand vous dites qu'on n'est pas, on ne doit pas être croyant, on doit être sachant. À partir du moment où on sait où se situe la émouna.
Ok. Ta question est, je parle maintenant d'un cas où on nous contraint du ciel à faire tchouva. On peut aussi me contraindre avec la raison. On me montre Mara plus Bekator est d'origine divine, donc il faut y croire. C'est beaucoup plus dur. Parce que bien que je sache, d'après la raison, quoi ça ressemble, quelqu'un qui fume, un fumeur. On lui montre, on lui explique par A plus B qu'il ne faut pas fumer. Écoute, mon cher ami, tu as un infarctus, tu as 60% d'avoir un infarctus à l'âge de 50 ans, la nicotine, le cancer du poumon. Ouais, bon, ok, tu me paniques, vite une cigarette, d'accord, tu me stresses, d'accord. Tu le prends à l'hôpital. Dans la. Comment on appelle ça? L'hôpital, il y a les. Facultés, les.
Secteur
oncologique, poumon, phase finale. D'accord? Là, je rentre de vomir leur poumon, de nicotine, tout ça, et c'est terminé. Cancer du poumon, tous à cause de la cigarette. Tu fais un petit pendant 2 heures, tu regardes chaque dossier, machin, sa tête, tes poumons, tu vois, le type, il ne peut pas sortir, fumer une cigarette, c'est impossible. 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 Alors, quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, il a compris avec la tête. Au niveau du corps, il ne vit pas le truc. Il faut la sensation pour, du vécu. Ça, c'est le, on vient à l'étrangler, ça ressemble à cela. Il y a un signe du ciel, ou quelque chose de très puissant, d'accord? Mais c'est un nul, encore une fois, c'est un nul. Pas un nul, c'est les gens qui ont un mérite spécial et que sans ça, ça ira pas, alors par le mérite des ancêtres, on leur fait ça, mais on les contraint à faire tchouva. C'est beaucoup plus noble, beaucoup plus grand, beaucoup plus méritant, méritoire d'être dans le doute et de vérifier et comprendre que c'est la vérité. Et malgré que j'ai des pulsions corporelles me disant non, et puis dans quelle tramway je vais rentrer, c'est difficile, mais c'est la vérité, je peux pas discuter avec ça, et je rentre là-dedans. C'est certain que c'est beaucoup plus grand.
Attends,
La Emouna, c'est une fois que je sais que c'est vrai, rendre ça vécu. Via data ayom, on dit à la fin de la prière, c'est un verset de Dvarim, via data ayom, tu sauras aujourd'hui, vashevota el levavecha, tu ramèneras cela à ton cœur. C'est ça, Emouna. Tu n'as pas le mitzvah de Emouna dans la Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ve'amanta. Ça n'existe pas. La Emouna, c'est quoi? C'est rendre vécu ce que je sais au niveau rationnel. Je sais qu'Hachem existe, je sais qu'il faut faire son désir, je sais qu'il faut faire le jour d'arrêt, il ne faut pas regarder les filles, il faut se lever, il faut bien prier, tout ça je le sais. Ton travail, c'est assimiler au niveau du vécu. Il croit que ça devient une croyance. Comme le fumeur qui comprend qu'il ne peut plus fumer. On a un rabbe ici à la Yeshiva qui fumait comme un pompier. Il fumait. Il a eu l'infarctus. Il est arrivé à l'hôpital, le médecin lui a dit vous êtes fumeur? Il dit oui. Et bien aujourd'hui, c'était votre dernière cigarette. Et depuis, il ne fume plus. Et moi, j'ai connu avant, il a essayé d'arrêter de fumer, il a réessayé. L'infarctus, c'est bien, c'est pas dans la tête, c'est pas encore. L'infarctus a compris, voilà, c'est, on joue plus, c'est pas de la blague, ça parle. Mais c'est beaucoup plus noble d'arriver par la tête, par la compréhension, de dire, ok, c'est mauvais, donc j'arrête. Oui.
L'histoire avec Rabbi Wishitz, c'est clair, il a un monde sacha. Moi, ma question, c'était Olam Haba, ça veut dire quoi? C'est marqué comme quoi? Le croire déjà de Olam Haba, ça vaut toute l'équipe du monde, depuis un milliard, depuis le début de la création, jusqu'à là. Qu'on compare, c'est aucun rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est impossible qu'il y ait un Yetzer Hara. Impossible.
Tu dis, ah, les gens qui ont goûté à Olam Haba, quand ils reviennent ici.
C'est impossible. Vous l'avez dit vous-même, une personne qui a goûté à Olam Haba, elle s'en fout de ce monde-ci.
Ouais.
Alors, il n'y a pas de Yetzer.
Alors?
Il n'y a plus de Yetzer.
Beaucoup moins.
C'est pas beaucoup moins.
Plus. Non, il a un Yetzer. Hachem lui donne un Yetzer. Il a un Yetzer. La tête comprend, la tête a goûté, il a vu. Comment dire cela? C'est Yom Kippour. Normalement, Yom Kippour, celui qui vit vraiment Yom Kippour bien comme il faut, on étouffe tout là. On pense sur nous avec vraiment sincérité de changer des choses. Et quelques semaines passent et on retombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas sincère, tu étais super sincère. Tu pleurais à chaudes larmes. Yom Kippour, il y a des conditions. Et par le fait que tu es à la synagogue, tu es en train de jeûner, il y a les prières, etc. Puis il y a la lumière de cette journée qui vient dans notre âme. On est tellement high, tellement haut, que pour nous c'est évident, c'est fini. Ce Yetzer Hara, il est mort pour moi. Après, Hachem te remet dans le tous les jours. Et Yetzer Hara revient, coucou, c'est moi. Mais j'avais fini avec toi, et ben on va voir. D'accord? Et il te titille, à la fin tu tombes. Idem, quelqu'un qui est parti au Olam Haba, il a vu, il revient ici, il dit c'est quoi ce monde-là? Ok, 1, 2, 3 jours, 2, 3 mois, 4 mois, le Yetzer Hara, il revient. Alors, il y a une expérience tellement grande de la Maba, comme je dis, ils reviennent ici pour la vie, c'est elle est fade. Mais c'est pas qu'ils n'ont aucun Yetzer. Eh bien, soit ils ont un Yetzer. Mais moindre.
Il n'y en a aucun qui reste en haut assez longtemps pour qu'il n'y ait plus du tout Yetzer Hara qui est en présent.
En tout cas, les deux qu'on a eu chez Al-Echiva, qui ont une expérience de mort clinique après l'accident de voiture, sont revenus, ils ont dit que depuis, ils n'arrivent plus à vivre heureux ici. C'est très dur pour eux.
Ils ne vont pas rester mort clinique 6 mois, ils vont rester 2 heures, 3
mois. Ouais, un certain temps, suffisant pour goûter.
Donc, ils ne voyaient pas tout.
Ils ne voyaient pas tout, mais ils goûtent déjà un peu. Certain que s'ils goûtent trop, ils ne reviennent pas. Oui, Jackie.
Si quelqu'un il est dans le coma, sa Neshama, elle est dans le camp ou entre deux?
Non, elle part d'habitude. Les gens racontent. J'ai un oncle qui est décédé. Enfin, décédé. Bon, Rachel, il est vivant. Il est tombé dans le camp. Il s'évanouit tout bêtement à la maison. Il s'évanouit. Ben, il s'est vu. Il a vu sa femme qui hurlait. Il s'appelle Nissim. Nissim. Il tapait d'accord. Lui, il est au-dessus comme ça. Comme. Il voyait les médecins qui parlaient. Ben, c'est très connu, ça. C'est 40 000 cas. On peut faire même une expérience sur vous-même, si vous voulez. Qui, dans la salle, n'a pas eu lui-même ou a des proches parents, des gens qu'il connaît, qui ont une expérience de ce type-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu cela? les gens des cas de mort clinique ou de gens qui sont vus, évanouis, tout ça. Voilà, il y a. C'est une expérience que vous devez faire toujours en public. Vous dites, c'est quand tu as un cours sur la vie après la mort, tu dis, on va parler, à la fin on fera une expérience sur vous. D'accord, les gens se disent que c'est quelle expérience de vie après la mort sur nous. Tu poses cette question-là. Et effectivement, toujours en public, tu as quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une expérience de ce genre-là. Alors on t'écoute, Daniel. Ouais. Toi-même, qui
Moi, j'ai eu un accident. À la fin d'une soirée très spéciale. Je suis connaissance complètement, quoi. C'est gros, parce que j'étais cadre de la voiture. Et je vois mon ami qui est à côté de moi, qui sort de la voiture et qui part en courant, en pleurant, téléphoner à la cabine téléphonique dans une rue. Et bon, quelques heures après, à l'hôpital, je me réveille, tout ça. Et j'ai dit à mon ami, je dis, alors c'est ça que t'as fait, non? T'es sorti, t'essaies de nous sortir, t'as pas réussi. Donc c'est la cabine téléphonique, et puis tu vois qu'il me fait exactement ce que j'ai fait. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait, hein, le lendemain, on est allé voir, deux jours après, on est allé voir où était la voiture, et en fait, de la voiture, c'était impossible, vraiment impossible de voir la cabine téléphonique. C'était pas dingue, il y avait quelque chose de pas naturel là-dedans. Mm-hmm. De la voiture, j'avais pas accès à la cabine téléphonique. Donc, mm-hmm.
Bon, bah, ça c'est un cas où on a vu ici, mais on peut beaucoup plus. J'avais un élève il y a 25 ans, première session de la Yeshiva, qui était un peu comme toi, comme ça, accident de voiture aussi. Et lui, il a vu qu'il décollait comme ça. Je crois que le conducteur est mort. Et lui, il décolle comme ça, il voit toute la ville, il monte, puis il entend qu'on appelle son nom. Il y a une sorte de lucarne comme ça, on appelle son nom, et on sort son dossier, il entend les feuilles comme ça tourner, de son dossier. Il voit un ange venir, il était non religieux. Il avait une coupa de Sidaka, et toujours il mettait une pièce. Alors le temps de sa femme lui dit, qu'est-ce que t'as ? Non, il met une pièce pour Sidaka. Il voit un ange venir vers lui, et sur la poitrine de cet ange, c'est marqué Sidaka, comme la même calligraphie de sa boîte de Sidaka, les mêmes lettres, Sidaka, comme c'est écrit sur sa boîte de Sidaka à lui. Et l'ange me dit, non, il ne peut pas monter, il m'appartient celui-là. Hop, il a tenu comme ça, il a redescendu jusqu'à la voiture et il s'est réveillé. Mitzvah, Sidaka, t'as c'est sur le marqué la Sidaka. C'est la mitzvah qui a le plus de pouvoir de sauver de la mort. Bauch Adonai, le Rabbanan.